association à la musique tunisienne.
L'éthique musulmane réprouve tacitement les manifestations ostentatoires de la musique. Elle est sur ce point tributaire de l'idéologie des anciens peuples sémitiques qui réunissaient dans une même conception la trilogie femme, libation et musique, avec son corollaire la danse, trilogie que les prophètes ont toujours désapprouvée et combattue. Si la musique et la danse ont été le sujet d'une telle opprobe, c'est seulement parce qu'elles sont inséparables de la dite trilogie dans l'esprit des peuples sémitiques, comme du reste dans celui des divers peuples de l'Antiquité, aussi ont-elles généralement profité d'une tolérance tacite. Chanter, c'est un peu déchoir. Danser est pire encore. Tel était il n'y a pas longtemps, et c'est aujourd'hui encore, quoique avec beaucoup moins de rigueur, la morale généralement observée en pays d'islam, notamment en Tunisie.
Dans les campagnes tunisiennes, la danse est généralement mitigée par un simulacre de lutte armée entre hommes. Les femmes bédouines dansent rarement, mais jamais en présence des hommes. Dans les cités, les gens du peuple sont généralement portés à la danse. Ils observent cependant à cet égard une certaine retenue de commande. Mais dans les milieux bourgeois, la discipline morale et de règles, on y est en effet plus conformiste et plus porté à se soucier de sa dignité et du qu'en dira-t-on. Les jeunes filles citadines ne se privent cependant pas de danser, mais elles le font dans les coins retirés du logis et seulement pour s'amuser entre elles. Les dames, responsables de la bonne conduite des enfants, ferment l'œil sur ce caprice des jeunes filles, mais s'abstiennent d'assister à ce spectacle. Quant aux membres mâles de la famille, il est hors question d'éveiller leurs soupçons par des bruits et une agitation insolite.
Pour les hommes, danser, c'est accomplir un acte de femme et s'exposer de ce fait à une mauvaise interprétation de sa conduite. Aujourd'hui, la page de l'idéologie et de l'éthique traditionnelle est à peu près complètement tournée dans les milieux bourgeois des cités tunisiennes. Les jeunes gens qui ont reçu une éducation moderne et qui ne trouvent pas répréhensible de danser des danses européennes ou américaines ne considèrent cependant pas avec le même sérieux les danses populaires de leur pays.
La musique artistique tunisienne, la musique classique de tradition andalouse, cette musique précieuse, sophistiquée et par trop systématisée, ne se prête cependant pas à la danse. Cantonnée dans une série fort restreinte de quelques rythmes-mesures, figée dans des formules définitives, ne permettant que peu de variations et dont le mouvement est généralement lent, elle n'inspire guère les danseurs. S'il existe aujourd'hui en Tunisie quelques airs de danse spécifiquement tunisiens, ces airs sont tous folkloriques, intégrés dans cette musique légère, rudimentaire et en perpétuel changement qu'est la musique populaire. Ce sont généralement des airs de chansons qui ont été une fois en vogue et qui, à cause de leur rythme bien syncopé ou fortement cadencé, ont été adaptés à la danse et ont survécu pour cette raison à la mode.
Les pas et les figures des danses populaires tunisiennes ne sont pas régis par des règles définies. L'inspiration du moment est la seule ressource de l'exécutant. Ces mouvements ne constituent de ce fait que des ébauches de figures, et sa danse est toujours une vague improvisation, sans but défini. Son seul souci est de coordonner sa mimique au rythme de l'air de danse. En dehors des milieux populaires des villes, certaines populations de Tunisie sont particulièrement portées à la danse. Ce sont celles des régions côtières, qui habitent les bourgs et les villages, et notamment les habitants de l'île de Djerba, et ceux du petit archipel des Kerkenna, situé au large de la cité de Sfax. Certaines ont leur danse particulière qui porte leur nom.
Pratiquée presque exclusivement dans les milieux populaires, la danse s'exécute généralement en Tunisie avec le seul accompagnement des instruments populaires, et notamment aux accents criards de la zokra, le hautbois sans clé tunisien, accompagné des coups gradués et habilement agencés du tbal, le tambour grosse caisse. La cornemuse et le bandir en tiennent parfois lieu. Leur son chevrotant, au débit continu, excite les nerfs des danseurs.
Dans les villes, les professionnels de la danse, les jeunes filles dans les maisons et les garçons dans leurs réunions de divertissement, dansent au son grêle et bien timbré de la darbouka, le petit tambour en céramique en forme de vase dont le fond est constitué par une membrane en parchemin. Nous allons vous décrire quelques danses tunisiennes.
Le saadewi. Saadewi dérive de Saad, nom propre de personne dont il est l'adjectif relatif. Il désigne un style de chant bédouin, particulièrement en honneur dans le nord de la Tunisie. Le rythme fortement cadencé de ce chant a fait de son thème principal un air de danse populaire, le seul connu des populations de cette contrée.
Le rythme est un 12-8 de 12 temps, de la valeur d'une croche chacun, accentué comme il suit. Accent et silence étant comptés en croches. Un accent fort, un silence, quatre accents faibles, un accent fort, deux silences, un accent faible, un silence, un accent faible, égale 12-8.
La danse saadewi est généralement exécutée par une seule personne, homme ou femme. Lorsqu'elle est exécutée à deux, les deux partenaires se font vis-à-vis sans se toucher ni s'enlacer à aucun moment. Elle s'efforce à former les mêmes figures en synchronisant leurs mouvements, ce qu'elles réussissent avec plus ou moins de bonheur selon leur entraînement et leur sens réciproque du rythme.
Les mouvements consistent à faire de petits pas en avant et d'autres en arrière, tout en évoluant dans un petit cercle en frappant chaque fois le sol du pied. Et en agitant par des gestes gracieux, deux foulards, en général de couleur rouge, et tenus par le bout dans chacune des deux mains. Les bras tout d'abord tendus en avant, la danseuse leur fait ensuite exécuter alternativement des mouvements de haut en bas et de bas en haut, faisant ainsi agiter les foulards comme les ailes d'un oiseau qui s'essaie à prendre le vol. À chacun de ces mouvements des bras correspond un frappé ou un lever des pieds. L'un des deux bras, généralement le bras gauche, est parfois replié, la main gauche appliquée à la hanche correspondante, le foulard pendant le long de la jambe comme l'aile brisée d'un oiseau.
Avec ce petit nombre d'éléments chorégraphiques si simples, les danseurs entraînés arrivent à obtenir une assez grande variété de figures élégantes et d'un charme vraiment artistique. Cette danse risque de devenir assez monotone si les exécutants n'y mettent pas assez d'imagination et de fantaisie, assez d'entrain et même de frénésie. Pour lui donner plus de vie encore, le danseur exécute de temps à autre un tour complet sur lui-même en faisant tournoyer les foulards.
Lorsque la danse est exécutée par une femme, celle-ci applique de temps à autre les coudes au corps, rejette les mains et les foulards en arrière, bombe le torse légèrement en avant, présente ainsi la poitrine en un geste d'offrande, puis se trémousse pour agiter les seins. Parfois encore, exécutant un roulis cadencé des hanches, elle fait légèrement mouvoir le ventre. Les bras sont alors soit tendus en avant en un geste d'appel ou d'enlacement, soit replié, les coudes légèrement fléchis. L'une des deux mains est parfois plaquée à la hanche et l'autre, le dos, appliqué sur le front en un geste de pudeur.
Thank you.
Des campagnes où il est très répandu et où il constitue la danse nationale d'une grande partie de la population, le Saadawi ou danse des foulards a gagné les villes tunisiennes. On l'y danse dans les familles avec le seul accompagnement de la darbouka, le petit tambour de céramique que l'on place sur un genou pour en frapper la peau avec le plat des deux mains. On le danse aussi dans les cafés-concerts, durant les fêtes de Ramadan, au son d'un orchestre d'instruments à cordes ou d'un tabel et zakar jouant en sourdine, autant que faire se peut. Au chatoiement des couleurs des foulards viennent alors s'ajouter l'étincellement des lamets du costume citadin, l'élégance plus marquée des femmes élevées à l'ombre des harems, la discipline plus raffinée et plus conventionnelle des gestes. Le décor enchanteur des patios aux portiques de marbre fait ressortir mieux encore la beauté des figures rythmées.
La danse Saadawi occupe une place importante dans les programmes des malhab ou jeux de lys. Elle est même intégrée aux exercices équestres. Tabal, zaka, joueur de grosse caisse et joueur de zoukra ou hautbois, se place en face du cheval pour jouer l'air Saadawi tant prisé des paysans et dont ils sont si passionnés qu'ils s'ingénient en inculquer le rythme à leur monture de parade. Le noble animal manifeste tout d'abord de l'énervement à entendre ce tapage, ces bruits dont il ne semble pas saisir de prime abord le sens. Mais, se laissant peu à peu gagner par la cadence, il commence ensuite à frapper alternativement le sol de chacun de ses deux sabots devant. Il secoue la tête et fait agiter sa crinière par des mouvements de mieux en mieux cadencés.
Dans cette imitation par la bête de la danse humaine du Saadawi, on pousse parfois le souci du détail jusqu'à placer un foulard dans la bouche de l'animal. Pendant cette séance, le cavalier se maintient droit sur la selle en une attitude hiératique, la main gauche à la hanche et la droite maintenant les guides relâchés. Il reste ainsi imperturbable, indifférent aux secousses que lui fait subir sa monture, fier de la voir accomplir avec une telle ferveur le rite réputé humain de la danse et en pénétrer, semble-t-il, le sens mystérieux. L'asgara est une danse guerrière, exécutée seulement par les hommes, dans les villages et les campagnes tunisiennes, où le souvenir des anciennes luttes tribales est encore vivant, où se pratiquaient, jusqu'au commencement de ce siècle, les jeux de lys et où chacun était, en quelque sorte, un guerrier en disponibilité. Sgara est un nom d'action ou de métier. Le verbe, qui n'est pas en arabe, mais qui est seulement employé dans le dialecte tunisien, signifie montrer beaucoup de joie, s'amuser beaucoup, par la parole et les gestes, d'où l'emploi du substantif sgara, pour désigner les jeux d'armes et spécialement les simulacres de duel au sabre.
Qui dit guerrier en Tunisie dit tacitement combattant à cheval, chevalier. Et ce dernier terme évoque toujours, dans l'esprit du Tunisien, une silhouette nette et précise, où le costume est le principal élément. Pour qu'on puisse se représenter les formes et figures résultant des gestes et mouvements de la danse gara, il nous faut décrire sommairement le costume classique du fers ou chevalier tunisien.
Thank you.
Nous choisirons pour modèle le cavalier de la Tunisie du Nord, l'Afrique du paysan tunisien, la Afrique de la conquête et des premiers gouverneurs arabes et l'Africa des Romains. La tenue de parade de ce cavalier est en effet assez caractérisée pour constituer un type et faire école non seulement dans le reste du pays, mais encore dans la plus grande partie du Maghreb jusqu'en Oranie. Invariable dans sa composition et l'ordonnance de ses éléments, ce costume ne comporte de variations que dans la nature, la qualité et la couleur des tissus, la richesse ou la discrétion des soutaches et des broderies.
La partie principale de cet uniforme est constituée par la kiswa, ou costume proprement dit. Ce terme est employé comme le mot complet en français pour désigner un vêtement dont toutes les pièces sont de la même étoffe, avec cette différence que le complet tunisien ne comprend pas les pantalons. La kiswa tunisienne se compose de deux pièces essentielles, la sidrille et le mintan, et d'une troisième pièce de moindre importance décorative parce que cachée au regard, la farmla.
La sidrille est une sorte de gilet sans manches qui se boutonne sur les épaules et dont l'échancrure circulaire entoure le bas du cou à la hauteur des clavicules. Le mintan est une veste courte, droite et non boutonnée, aux manches collantes, assez semblable à la veste des toréadors espagnols. Entre la sidrille et le mintan s'intercale parfois la farmla, sorte de gilet sans manches elle aussi, mais ouverte au devant et non boutonnée.
Les riches costumes d'apparat que l'on se transmet de père en fils dans les grandes familles des campagnes tunisiennes sont coupés dans du velours de soie, rouge foncé ou bordeaux, violet ou vert émeraude, et décorés aux manches, sur les bords et sur le dos, de broderies d'art, de soutaches et de galons exécutés à l'aide de fils d'or ou d'argent. Le costume normal se coupe dans une sorte de drap feutré appelé melf, sans doute parce qu'on l'importe de la ville italienne d'Amalfi, ou dans une étoffe de soie moirée appelée garmassou, que l'on importait d'Orient et spécialement des Indes. Concurremment avec les couleurs précédentes, les teintes choisies sont le jaune bouton d'or, une assez grande variété de nuances de bleu, de vert et de rouge. Le bleu gris est quasi classique. Les broderies, soutaches et galons sont alors remplacés par les mêmes ornements exécutés à l'aide de fils de soie tordus et d'une teinte opposée par la couleur ou le ton à celle du tissu.
Les culottes, appelées serouelles, sont de satin de couleur assortie à celle du costume ou encore de simple toile blanche ou gris foncé. Coulissées à la ceinture, le fond vaste, plissé et bouffant, les jambes également plissées, serrées aux genoux et maintenues à la hauteur des jarrets par un solide galon de passementerie. Elles assurent au cavalier une aisance de mouvement favorable à la bonne réussite des exercices violents. Une large ceinture de soie à petits carreaux blancs alternés de carreaux roses, bleu ciel ou violet, est enroulée autour de la taille dont elle fait ressortir le galbe tout en protégeant contre les accidents possibles les organes de l'abdomen.
Une chéchire ou épaisse calotte de tricot de laine, feutrée et teinte de kermès ou de cochenille, recouvre la tête jusqu'aux tempes. Un gland en fil noir de soie torse, coubide, retombant en arrière, agrémente cette coiffure dont il dépasse légèrement les bords. Dans ce costume, la silhouette de notre cavalier tunisien ne différerait guère de celle d'un Albanais ou d'un Bosniaque, si d'autres éléments vestimentaires ne venaient la transformer complètement.
Thank you. C'est tout d'abord la kashta ou turban, faite d'une bande de mousseline blanche ou de soie beige, mouchetée de points mordorés. Entortillée en un rouleau assez lâche, légèrement plus gros que le pouce, cette bande est ensuite enroulée autour de la tête, sur la chéchia et son gland en quatre ou cinq rangs superposés. Le bout du rouleau est glissé entre la calotte et le dernier de ses bourrelets. Ce sont ensuite les jezmettes, ou bottes de cuir rouge, à la tige unie ou brodée de fils d'or et d'argent, ou simplement de soie. C'est enfin et surtout le hrem, le grand voile blanc au drapé si caractéristique auquel le cavalier tunisien doit sa silhouette si particulière.
C'est une longue et assez large bande d'étoffe, tissée de fils de soie blanche, sur une chaîne de filets de laine de même couleur, étranglée à peu près en son milieu par un nœud effectué à l'un des deux bouts d'un foulard tordu, la pièce de soie lâche et souple se trouve de ce fait partagée en deux pans plissés, s'infléchissant de chaque côté du corps en un gracieux mouvement de guirlande. Les deux pans vont ensuite se croiser sur le dos en un élégant drapé, avant d'atteindre l'un l'épaule gauche où il sera attaché à l'autre bout du foulard, et l'autre à la tête, qui l'enveloppera en passant par-dessous le menton.
Pour maintenir le voile en place et l'empêcher de se défaire sous l'effet du vent et des mouvements violents, une cordelette faite de poils de chameau ou de fils de soie et d'argent tressés est enroulée autour de la tête. C'est le hagel, le serre-tête national de tous les peuples sémitiques. Une ceinture de velours décorée de broderies et assortie au harnachement du cheval est enfin passée autour de la taille, juste au-dessous des seins. Deux bretelles, croisées en écharpe sur le dos et sur la poitrine, maintiennent la ceinture en place, et deux sacoches cartouchières y sont accrochées, couvrant chacune un sein. En plus de son effet décoratif, cette ceinture joue le rôle d'un bandage orthopédique pour protéger la cage thoracique contre les accidents auxquels elle est exposée par suite des exercices violents et des mouvements trop brusques. L'ajustement de la tête des cavaliers de la Tunisie du Nord et surtout la façon si typique dont ils disposent leur hrem en croix sur le dos donne à leur silhouette l'apparence de celle des croisés chrétiens du XIIIe siècle que l'on voit représentée sur certaines estampes.
En décrivant le costume et la silhouette du cavalier tunisien, notre but était de donner une image des figures de la danse gara dans leur expression parfaite et pour ainsi dire typique. Pour exécuter cette danse, il va de soi que nul n'est astreint à porter un tel costume. La tenue d'apparat de cavalier permet aux danseurs de donner à ses mouvements une apparence de réalité qui ajoute à leur expression. Sans ce costume, la danse ne serait qu'une caricature. La danse gara ne s'exécute généralement que dans une enceinte de malhab, ou jeu de lys. Dans le programme de ces jeux, elle constituait la principale attraction. Après les exercices équestres, manèges, poursuites, acrobaties à cheval et d'autres performances plus hardies encore, l'ordonnance des jeux de lys est assurée par l'orchestre du Tbal Zakar. Le joueur de Tbal, ou grosse caisse, et le joueur de Zoukra, ou hautbois, dont le musicien couvrait à longueur d'année, il n'y a pas si longtemps, les campagnes tunisiennes dont elles constituaient le souffle de vie et le pouls battant. Ils sont encore de toutes les fêtes champêtres, de tous les cortèges dans les villages et bourgades, et de toutes les manifestations de joie qui se déroulent un peu partout en plein air.
Thank you.
Par ses coups sourds, profonds et gradués, le tabel règle le déroulement des jeux de lys, pendant que son partenaire, le zakar, les joues gonflées, les yeux pétillants, s'affaire à maîtriser par les doigts et par le dosage du souffle le flot indiscipliné des sons rétifs et criards pour en sortir, à force d'application et de patience, des airs cohérents et mélodieux. À petits pas, le danseur s'avance, le sabre à la main, vers le petit groupe de musiciens qui, pendant ce temps, se mettent à jouer des variations sur l'air de l'asgara pour en retrouver la cadence principale et le mouvement exact.
L'exécutant s'immobilise pendant un moment devant la fanfare, le regard déjà égaré, les sens tendus, l'oreille à l'écoute. Il cherche à reconnaître et à saisir les accents du rythme et les contours de la mélodie et à s'imprégner, pour ainsi dire, les sens de la cadence de l'air joué. Soudain, comme se réveillant d'un rêve captivant, il fléchit un peu en avant la taille et le genou droit, en faisant coïncider adroitement ce mouvement avec le premier temps d'une des syncopes de la période rythmique, puis au second temps de la même syncope, il se raidit brusquement en brandissant au-dessus de la tête le sabre en poignée de main ferme. La frénésie guerrière se lit déjà dans son regard enflammé.
Aussitôt, le danseur se met en garde contre un adversaire invisible, ou réel s'il joue avec un partenaire déjà préparé comme lui à ouvrir le combat. Alors commence une lutte simulée où les passes, les pointes, les parades et les moulinets, les engagements, les dégagements, les croisements et les ruptures seront exécutés selon la cadence du rythme au mouvement si entraînant de la musique de joute. Contrôlés et mesurés par les accents syncopés du mouvement rythmique, les gestes du danseur sont ainsi soumis à une stylisation artistique qui donne à cette danse en elle-même si simple un certain charme et une dignité hiératique.
Dans les fantasias ou séances de jeux équestres, la lutte simulée oppose parfois un fantassin à un guerrier monté. Le cheval a alors une partie à jouer dans cette joute. Son rôle consiste à parer pour son cavalier le plus de coups possible, en se déplaçant légèrement d'un côté ou d'un autre, en se servant de la tête et des sabots pour effrayer l'adversaire, en exécutant d'autres mouvements encore que l'intelligente bête mesure sur les accents du rythme qui la subjugue et dont elle compte inconsciemment les temps.